On a voulu vraiment, en quelque sorte, démocratiser cette vie intellectuelle qui souvent est trop vue par en haut et par le sommet.
Et alors, vous avez choisi de scander en quatre séquences historiques. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qui se passe à partir de 1860 et comment vous avez décidé de partager le 19e siècle à 1860?
Oui, alors il y a une espèce de symétrie presque trop belle dans notre livre, puisqu'on a coupé le 19e siècle vers 1860 et on a coupé le 20e siècle vers 1962. Donc il y a une espèce
de
symétrie parfaite. Bon, alors la guerre d'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie, ça paraît une coupure effectivement importante, puisque c'est quand même un changement radical du rapport de la France à son empire et au monde extérieur. 1860, ça paraît pas absolument évident, en tout cas c'est pas une date canonique de l'histoire, ni politique, ni militaire, ni intellectuelle. Donc c'est plutôt la décennie 1860 qu'il faut entendre, c'est-à-dire c'est un moment où le gouvernement de Napoléon III finalement revient sur sa politique autoritaire, commence à lâcher du lest, donc s'oriente vers un plus grand libéralisme en autorisant un certain nombre de choses qui étaient interdites avant. Donc ça relance cette dynamique d'ouverture, cette dynamique de démocratisation. C'est le moment aussi où le gouvernement de Napoléon III décide d'ouvrir justement la France sur le monde extérieur à travers d'une part la relance de l'empire colonial et d'autre part le traité de commerce avec la Grande-Bretagne. Alors c'est un peu symbolique, ça veut dire la France renonce au protectionnisme, ce qui est quand même la politique que la France avait menée pratiquement de toute éternité, hein, le mercantilisme au XVIIe siècle, la politique de confrontation avec l'Angleterre au moment du blocus continental avec Napoléon. C'est vraiment un changement radical, et c'est d'autant plus symbolique que c'est le neveu même de Napoléon qui prend le contre-pied de la politique. Alors, on dirait, bon, c'est anecdotique, ça concerne le commerce. Non, parce que ça veut dire que la France joue la concurrence, se confronte à la plus grande puissance de l'époque, va essayer de tirer son avantage de cette concurrence dans les secteurs où elle est forte, et tant pis, les secteurs où elle est moins forte, ils vont souffrir, mais en tout cas, la France n'est plus fermée sur elle-même comme elle l'a été pendant les deux premiers tiers du 19e siècle. Troisième élément dans cette conjoncture, c'est le conflit avec l'Église, hein, qui est un moment lié à l'unité italienne. Napoléon III a soutenu l'unité italienne en participant à la guerre contre l'Autriche en 1859, et par là même, il se trouve en confrontation avec l'Église catholique, puisque cette unité italienne va à l'encontre des intérêts de la papauté. Or, c'est un changement radical, puisque jusque-là, le gouvernement de Napoléon III et les gouvernements précédents avaient soutenu le pape dans son exigence d'avoir un État à lui et de ne pas, justement, tomber sous la coupe d'un éventuel État italien unifié. Donc c'est vraiment un changement stratégique très fort. Et puis, dernier élément, c'est aussi le moment du grand débat autour de la science, hein, avec la montée en puissance d'une science d'inspiration allemande qui influence un certain nombre de savants français, la volonté de ces savants français de moderniser l'université en s'alignant justement sur le modèle de la recherche allemande. Alors ça ne sera pas tout de suite, hein, ça prendra plusieurs décennies et ça ne sera réalisé que par la Troisième République. Mais enfin, ça montre bien toute une série de changements politiques, internationaux, internes, de l'ordre du religieux ou de l'ordre du savant qui converge vers un changement des conditions même de cette vie intellectuelle par rapport à ce qu'elle était jusque-là dans la période précédente. Voilà un peu la justification de ce tournant, mais évidemment c'est un phénomène progressif, donc c'est une date un peu date ronde, mais c'est pas une date où tout bascule comme en 62 évidemment avec la guerre d'Algérie pour la France du XXe siècle.
Alors, vous l'avez déjà un peu évoqué avec cette intensification des échanges. Vous avez aussi intitulé cette période les titres valent ce qu'ils valent, mais enfin qui sont le temps des groupements. Alors, pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça désigne? Qu'est-ce qui est spécifique dans ce moment-là de la vie intellectuelle?
Alors, ce qui m'apparaissait, c'est que jusque-là, si vous voulez, les grandes individualités revendiquaient leurs innovations, leurs idées individuellement. Hein. Il suffit de penser aux grands auteurs romantiques, il suffit de penser aux grands représentants de courants comme le socialisme utopique ou comme des grandes idéologies politiques. C'est un individu singulier, un auteur singulier qui construit une œuvre et qui va la diffuser et qui finalement est un individu. Dans la dernière partie du XIXe siècle, on voit au contraire que beaucoup de ces mouvements intellectuels sont des collectifs, c'est-à-dire il y a bien sûr un chef, mais ce chef a besoin de s'entourer de disciples, a besoin de s'entourer de médiateurs et éventuellement même va passer des alliances avec d'autres groupes dans d'autres secteurs. Hein. Il suffit de penser à la campagne de Manet, par exemple, pour obtenir la reconnaissance de l'originalité de ce qu'il fait. Il ne le fait plus tout seul, il le fait en s'appuyant sur des écrivains qui vont faire sa publicité, qui vont défendre son œuvre, qui vont écrire des ouvrages, des articles en sa faveur, et il y a une sorte d'alliance pour soulever le couvercle de l'académisme, soulever les contraintes de cette vie antérieure. Donc on a le sentiment que pour se libérer, on ne peut plus être un seul génie, il faut s'allier, hein, il y a le naturalisme, le mouvement autour de Zola, c'est pareil, ils veulent non seulement révolutionner la littérature, mais ils veulent faire de la littérature une sorte d'outil scientifique et d'outil politique d'un certain côté, puisqu'ils prétendent rendre compte de la réalité, un peu comme le ferait un sociologue, et à travers leurs œuvres, contribuer au débat public, puisqu'ils mettent les problèmes sur la table, hein, le problème de l'alcoolisme avec l'Assommoir, le problème de la condition ouvrière avec Germinal, le problème de la propriété paysanne avec la terre. Donc, c'est des œuvres qui se veulent des moteurs, qui concernent pas seulement quelques écrivains ou pas seulement quelques artistes, mais qui peuvent prendre à témoin des groupes plus larges qui vont s'emparer de cela. Donc, je crois qu'il y a un changement de modalité même de la percée intellectuelle, et l'aboutissement de cela, c'est l'affaire Dreyfus avec la revendication collective des intellectuels d'avoir un rôle à travers la signature de pétitions, la formation de ligues, la formation de journaux, d'universités populaires. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique collective nécessaire dans cette nouvelle vie intellectuelle, parce que la compétition est de plus en plus rude, parce que les secteurs se séparent mais ils veulent quand même continuer de coopérer. Enfin, il y a tout une nouvelle façon de travailler, et ces nouvelles bases vont durer assez longtemps, hein, puisque tous ces ismes dont on parlait tout à l'heure, ils vont continuer bien sûr au XXe siècle, et encore une grande partie de la vie intellectuelle d'aujourd'hui est fondée sur ces revues, sur ces collectifs, sur ces associations, sur ces mouvements d'éducation populaire. Donc je pense que c'est un nouveau mode d'expression et de mobilisation des esprits pour essayer d'influencer la société.
Alors justement, vous avez parlé de tous ces ismes. Anna Boschetti, vous avez particulièrement étudié ce que vous appelez les ismes en étudiant à quoi sert et comment se forme le futurisme, l'existentialisme, le surréalisme, le réalisme, le naturalisme. Tous ces ismes dont Christophe vient de parler.
Seulement quelques mots à ajouter, c'est-à-dire Christophe, donc on n'entend pas. Et donc, simplement, je voulais souligner le fait que le regroupement devient nécessaire au moment où les dimensions du champ de production sont élargies. Parce qu'auparavant, c'était des petites communautés sous l'ancien régime, par exemple, et finalement, il y avait. Les lieux où les gens circulaient étaient peu nombreux, ils se retrouvaient tous, c'était plus facile d'accéder à la visibilité. Tandis que vraiment, comme pour les banques, disons, sur tout le terrain, la concentration, l'union fait la force. Donc, le regroupement, c'est une manière aussi de devenir plus visible dans un monde qui s'est fait plus grand, élargi. Donc l'individu se perd et le regroupement, c'est une manière d'accéder à la reconnaissance, à la consécration. Et il y a toute une panoplie, tout un arsenal de stratégies qui s'accompagnent généralement au regroupement, comme Charles a indiqué tout à l'heure. Donc il y a les revues, notamment, lancement des labels, manifestes, tout ça devient un arsenal. Avec le futurisme devient comme une composante essentielle de l'avant-garde. Avant le futurisme, avant-garde voulait dire simplement quelqu'un qui avançait les autres, précédait les autres, qui allait C'était justement dans le sens de la métaphore militaire qui précédait les autres. Un individu, un groupe, mais après le futurisme lance la notion d'avant-garde comme mode de fonctionnement. Donc l'avant-garde, ce n'est plus, après le futurisme, simplement un individu qui précède ou un groupe qui précède, mais il faut qu'il y ait même des attitudes agressives, subversives, voyantes. Et pour devenir voyant, visible, on rassemble tous ces moyens qui ont été élaborés. C'est une construction historique quand même, cette manière de fonctionner. Tout ça a été élaboré au temps du romantisme. On a revu le lancement d'étiquettes, etc. Autre chose que je voulais ajouter, c'est que séisme, ont autant de succès, ceux qui s'affirment évidemment, parce que tous n'arrivent pas évidemment à s'affirmer, mais ceux qui s'affirment deviennent, s'institutionnalisent dans l'histoire littéraire artistique parce que ça devient commode pour les historiographes, pour les contemporains, pour la postérité, de classer l'histoire littéraire artistique par isme. Et après le romantisme, il devient, ça devient une habitude mentale de cette vision de l'histoire littéraire artistique comme succession de mouvements où celui qui vient après dépasse les mouvements précédents parce qu'il y a une conception évolutionniste de l'histoire qui s'est instaurée, qui fait qu'on pense tout en termes de progrès, de dépassement. Et là, on arrive au fonctionnement de l'avant-garde qui exacerbe cette logique, et on arrive à la logique de la révolution permanente, du dépassement permanent, qui fait qu'en certains moments, il y a des impasses terribles dans la vie des gens. C'est-à-dire, à la fin du 19e siècle déjà, on voit que cette prolifération d'ismes et des tentatives de dépassement aboutit à des problèmes, parce que des problèmes, par exemple, d'écart par rapport au public, une distanciation par rapport au public, parce que le public n'est pas à même de suivre la logique de transformation interne au champ littéraire artistique.
Il s'agit évidemment aussi de positions, d'affrontements, de supplanter, de rapports de force. Mais alors justement, on va y venir avant de venir dans le détail. Pour revenir à notre thème sur le nationalisme et cosmopolitisme, évidemment, vous y faisiez allusion, Christophe Charles, la période 1860-1914, quand on pense en termes de cette question du nationalisme, on va penser évidemment à l'affaire Dreyfus. Et là, ce qui est très intéressant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer que l'affaire Dreyfus est plus un aboutissement, même si elle inaugure aussi quelque chose de complètement nouveau comme position de l'intellectuel, mais elle est aussi l'aboutissement de toute cette polémique qui va monter à partir de 1860 et surtout à partir de 1880-90, sur la question du nationalisme. Alors, vous avez décrit à quel point, Christophe Charles, le 1860, c'était plutôt le moment de l'intensification des échanges. Et qu'est-ce qui explique ce paradoxe que c'est aussi au moment où les échanges s'intensifient que le nationalisme monte et monte d'abord dans la vie artistique, littéraire. On parlera plus tard de l'invasion étrangère à propos de Wagner ou de Nietzsche.
Oui, alors il faut ajouter un élément par rapport à cette ouverture. On peut raisonner par analogie avec aujourd'hui où on a un phénomène similaire avec ce qu'on appelle la mondialisation. On sait bien que cette mondialisation est en train d'aboutir en ce moment même à des réactions nationalistes dans énormément de pays. Donc, c'est pas très étonnant de voir cette répétition de l'histoire. Mais en France, il y a un phénomène spécifique qui isole la France par rapport aux autres pays d'Europe au même moment, c'est la défaite de 1870. Et justement, cette défaite, elle a pris complètement le mouvement d'ouverture à contre-pied, puisque Napoléon III espérait qu'il allait renforcer la France par cette ouverture en la confrontant à la compétition et en l'obligeant à évoluer, et alors que la défaite, évidemment, démontre que ce mouvement était trop optimiste, en tout cas n'était pas assez assuré de ses bases, puisque la France s'est effondrée brutalement devant l'armée prussienne, et en même temps, elle a perdu non seulement la guerre, mais elle a aussi perdu la paix, puisque c'est maintenant l'Allemagne qui domine l'Europe. Donc la France, qui jusque-là se pensait un petit peu comme le pays dominant de l'Europe, se retrouve en position dominée, et du coup, c'est ça qui suscite une espèce de réaction, de rejet de cette politique qui avait été inaugurée dans les années 1860, d'un côté, et puis aussi un sentiment d'orgueil blessé, un sentiment d'échec et de réflexion sur pourquoi cet échec, puisqu'il y avait jusque-là une conviction que la France était plus forte que les autres, qu'elle avait ouvert la voie au progrès à travers la Révolution française, à travers les différentes révolutions du 19e siècle. Donc là, il y a une espèce d'examen de conscience, et un certain nombre d'intellectuels, donc ceux qui vont s'orienter vers le nationalisme, vont dire finalement nous avons été trop naïfs, nous avons été trop confiants, il faut refonder la France sur de nouvelles bases, et la seule base possible, c'est cette nation, cette unité nationale, et il faut éliminer tous les facteurs qui nous ont affaiblis et qui expliquent notre défaite. Alors après, il y a évidemment des débats entre les intellectuels sur savoir quel est le bon diagnostic, hein. Il y a toutes sortes de diagnostics, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais en tout cas, il y a vraiment ce qu'on a appelé l'auteur du XXe siècle a fait un travail là-dessus qui s'appelle « La crise allemande de la pensée française », donc un sentiment qu'il faut faire un examen de conscience et se confronter à l'ennemi, se confronter au pays qui nous a vaincus pour retrouver la force qu'on a perdue. Et évidemment, là, il résonne par analogie avec ce qui s'était passé 30 ans, 60 ans plus tôt, quand Napoléon avait battu la Prusse en 1809, et que là, les intellectuels allemands avaient lancé toute une série de réformes pour redresser la situation et à leur tour reprendre l'avantage. Donc les intellectuels français reprennent un peu ce schéma pour guider leur regard, et c'est là donc ce dialogue franco-allemand qui est paradoxal, puisque c'est un dialogue pour retrouver la grandeur, mais en même temps on essaye d'utiliser certains atouts du vainqueur pour s'en inspirer et se réformer. Donc on voit bien qu'il y a un lien ouverture-fermeture permanent.
Alors, pour qu'on se donne une idée quand même de tout ce qu'on peut lire, entendre, voir, en France, dans ces années du 1800, avant la guerre de 70, y a le roman anglais, la musique allemande, Darwin est très connu, commence à être connu. Comment est-ce qu'on peut évaluer le volume et la nature des échanges, enfin des importations dans la vie littéraire notamment?
Alors pour les volumes, je m'adresse à Christophe qui a fait des recherches vraiment et très originales aussi. Ça va vous surprendre beaucoup, je crois, parce que. Donc, comment évaluer, parce que donc les données qu'on a concernant les échanges, les flux à cette époque-là ne sont pas toutes ni fiables ni exhaustives. Et donc, je lui passe la parole, il vous racontera comment il a fait.
Oui, alors donc il y a plusieurs façons de regarder cela. Alors, c'est un peu ce que vous venez de faire tout à l'heure, en citant quelques grands auteurs, en citant quelques grandes œuvres, L'origine des espèces de Darwin, tel roman de Dickens, tel traité philosophique qui est connu ou traduit en France, mais ça évidemment c'est des œuvres un peu exceptionnelles qui concernent des publics assez étroits malgré tout. Donc ce qu'on essaye de faire, en particulier le chapitre de Blaise Villefer dans le volume et puis d'autres travaux qui sont menés en parallèle, c'est d'essayer de quantifier pour ne pas se laisser piéger par ces exceptions ou par ces choses un peu visibles mais qui ne sont pas forcément représentatives. Alors la première façon, c'est d'étudier les traductions, hein, quel est le degré de présence de livres étrangers traduits dans la culture française. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est que dans les années 50-60, il y a une augmentation des flux de traduction, mais ça reste quand même sur des bases assez classiques, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on traduit en priorité? C'est l'anglais, et ça c'est une vieille tradition depuis le XVIIIe siècle, c'est l'anglais qui est la langue la plus traduite en français, donc là c'est rien de très nouveau. Qu'est-ce qu'on traduit le plus? Ce sont des romans, donc là aussi on reste dans une littérature plutôt de divertissement et commercial. Et à côté de ça, les œuvres savantes, bon, il y a une montée de l'allemand. Donc là on voit déjà un premier mouvement de diversification. On verra un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle, l'arrivée de nouvelles langues beaucoup plus rares, comme le russe, comme les langues scandinaves, comme le polonais, et voire des langues exotiques comme le chinois, le japonais. Donc il y a une ouverture incontestable si on prend ce simple indicateur de la diversité des langues traduites et de la proportion qui se modifie un petit peu de leur rapport de force. Mais alors moi, ce que j'ai un peu ajouté par rapport à cela, ce n'est pas présent dans le livre ici puisque ce n'était pas son objet, mais c'est de mesurer l'impact, c'est-à-dire, c'est bien beau de compter des titres, mais savoir c'est, est-ce que ces titres sont lus, est-ce qu'ils pénètrent en profondeur ou pas dans le public, et comment l'évaluer. Alors ça, c'est la grande difficulté de la vie culturelle du 19e siècle. Aujourd'hui, vous le savez, les éditeurs font des comptes très précis du nombre d'exemplaires vendus, de quel est le degré de réédition, etc. Enfin, maintenant, depuis les années 60 du 20e siècle, on a des statistiques fiables sur l'importance de chaque titre, de chaque production, etc. On n'a pas du tout, évidemment, l'équivalent au 19e siècle. Ce qu'on peut, en revanche, c'est mesurer les échanges à travers les douanes, puisque la France exporte des titres, des volumes, des journaux, des revues, et ça, c'est enregistré par la douane pour, évidemment, prélever des droits. Et on s'est mesuré, c'est pas mesuré en nombre de volumes, c'est pas mesuré en nombre de volumes, c'est mesuré en poids. Évidemment, c'est un peu plus abstrait, mais on peut quand même calculer combien pèse en moyenne un livre. Donc en divisant le nombre de tonnes par ce poids moyen d'un livre, bon, c'est très approximatif, ça permet quand même de donner une idée de l'ampleur de ces échanges. Bon, alors moi j'en suis resté au niveau des tonnes, mais enfin, ce qu'on voit, c'est effectivement une expansion très forte du volume échangé. Donc ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, cette ouverture des échanges qui concerne d'abord les grands secteurs industriels et commerciaux va aussi bien sûr permettre aux livres français de s'exporter beaucoup plus, notamment vers l'Amérique latine. Un des premiers clients de la France à l'époque, c'est le Brésil. Un autre client important, c'est l'Espagne. Donc on a un rayonnement à travers cela, puisque si des gens importent des tonnes de livres de France, c'est quand même pas pour simplement les faire promener, c'est parce qu'ils imaginent qu'il y a des clients au bout.
Des lecteurs en français.
C'est quand même assez logique. Alors ça, ce sont des lectures en français, mais ça permet quand même de mesurer un certain rayonnement et surtout les directions de ce rayonnement, quels sont les pays les plus demandeurs de livres. Et puis on peut aussi, puisque ça les douanes le donnent, voir les secteurs de force. Est-ce que c'est plutôt des ouvrages scolaires? Est-ce que c'est plutôt des ouvrages religieux? Est-ce que c'est plutôt des ouvrages de divertissement, etc. Enfin, on peut, je n'ai pas le temps de détailler les statistiques, ça serait ennuyeux, mais enfin, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on disait d'habitude en comptant simplement les titres. Alors, on peut faire le travail, évidemment, en sens inverse, pour voir qu'est-ce qui est massivement importé vers la France. Donc, comme je l'ai dit, c'est en principe, d'abord, en premier rang, la littérature anglaise, et notamment les romans anglais, mais il y a aussi une montée en puissance des ouvrages savants venus d'Allemagne. Là, c'est évidemment en relation avec ce prestige de la science allemande et des universités allemandes qui sont un modèle, en tout cas pour un certain nombre de savants français, parce qu'elles produisent une science de très haut niveau. Et puis, alors, il y a toute la concurrence autour des livres religieux, qu'il ne faut jamais oublier. Un gros secteur d'exportation, ce sont les Bibles, ce sont les Évangiles, ce sont les missels, et c'est de la production de masse, puisque là, il s'agit de toucher les plus larges publics pour défendre la religion catholique quand c'est un pays catholique, la religion protestante quand c'est des pays protestants. Donc là, il y a une compétition à plusieurs dimensions et qui n'est pas seulement commerciale, mais qui renvoie évidemment à des objectifs idéologiques, étendre la sphère d'action de la religion catholique à travers les missionnaires, à travers la pénétration dans des pays qui ne sont pas au départ catholiques, et inversement pour les pays protestants. Donc on peut comme ça quand même aller beaucoup plus loin dans cette vivacité des échanges. Et c'est pour ça que c'est une période tout à fait passionnante, parce qu'elle nous rappelle beaucoup de choses d'aujourd'hui, avec cette multiplication des échanges culturels, cette compétition autour des marchés, cette volonté de pénétrer des nouveaux marchés. on a tout à fait des phénomènes qui ressemblent à aujourd'hui.
Alors, ce qui n'est peut-être pas tout à fait comme aujourd'hui, c'est la centralité qui demeure tout de même de, celle de Paris dans la vie et de la langue française. Qui parle français en Europe, beaucoup plus de monde peut-être qu'aujourd'hui.
Oui, effectivement, je voulais parler de ça, c'est-à-dire d'abord donc l'exportation, l'écho des modes français à l'étranger. Et donc, de ce point de vue-là, vraiment, cela confirme l'analyse quantitative parce que toutes les modes parisiennes sont exportées à l'étranger. Naturellement, il faut faire attention, elles sont toujours traduites selon les logiques internes du lieu d'accueil, c'est-à-dire comme les importateurs ont intérêt à importer en fonction de leur position dans leur champ d'appartenance, en fonction de certains enjeux. Et donc, il y a, par exemple, pour donner un exemple, le naturalisme. Et il connaît une fortune immense, mais d'abord, par exemple, l'étiquette naturalisme est considérée comme une étiquette dangereuse parce que les autres pays n'ont pas la même liberté que la France. La France est laïcisée, ouverte, c'est un pays libéral et donc les autres pays connaissent beaucoup plus de censure et surtout les traditions, beaucoup, il n'y a pas une tradition d'avant-garde, d'avant-gardisme. Et donc, par exemple, en Allemagne, il y a des écrivains qui se réclament du naturalisme ou du réalisme, comme Fontane, mais ils le font d'une manière timide. Et donc, en critiquant le misérabilisme ou la laideur chez Zola, ou bien les gens qui vraiment cherchent à faire du réalisme en Allemagne en s'appropriant les modèles français, le font à leur risque et péril. Par exemple, il y a Gerhard Hauptmann, qui est un auteur de théâtre, un dramaturge, et des poètes aussi. Il y a des poètes, ça peut paraître étrange, des poètes qui se réclament du naturalisme. Donc, ce sont ce que nous appelons les nouveaux entrants, c'est-à-dire les nouveaux venus qui ont intérêt comme à casser la vitre, à mettre en cause ceux qui dominent, les modèles dominants, qui ont intérêt aussi donc à se réclamer des modèles qui, à Paris, ont conquis le devant de la scène. Parce que le fait de s'imposer à Paris est comme une garantie de valeur, de supériorité, de légitimation, même pour le public étranger. Mais ils ont beaucoup de mal à s'imposer, donc leurs œuvres, la même chose en Angleterre, par exemple, pour George Bernard Shaw. Une pièce de George Bernard Shaw met une vingtaine d'années pour être représentée en public à Londres, parce qu'elle est considérée comme trop scandaleuse, trop vériste. Et d'autre part, par exemple, certains pays, beaucoup de pays, emploient d'autres étiquettes pour se démarquer de la France, pour faire voir qu'ils ne sont pas vraiment si dominés que ça. Par exemple, en Italie, on n'emploie pas l'étiquette naturalisme, mais verisme. Et donc, le jeu sur les étiquettes aussi est très important. Mais je voulais revenir à la domination parisienne. Donc, il y a vraiment une exportation de toutes les modes et aussi il y a un aspect, c'est-à-dire les étrangers qui viennent à Paris et pour s'imprégner vraiment des nouveautés parisiennes, pour vivre dans le milieu parisien le plus informé. Là, je voudrais souligner le fait que je parle de Paris parce que la France, finalement, la culture française, c'est... La focalisation sur la capitale est centrale parce qu'on ne comprendrait pas la domination symbolique de la tradition française sans tenir compte de la centralisation très ancienne de la vie culturelle en France. Et autre chose que peut-être moi, étrangère, je remarque un peu plus que les Français de souche, c'est le fait que les modèles français, non seulement de la centralisation, mais aussi les modèles de l'État français depuis le début, les modèles du mécénat. C'est un État qui ne se légitime pas par la force seulement, ni par les armes seulement, mais par la culture. C'est un modèle, je crois, pas peut-être parce que je suis italienne, importé de la Renaissance italienne. C'est-à-dire, finalement, il y a eu deux femmes Médicis qui ont épousé des souverains français. Mais ces modèles en France a acquis une force extraordinaire. Et ça a voulu dire la création, parce que le fait d'être choyé, d'être prisé par les puissants, par la bonne société, par les salons, c'est un fait qui fait appauvrir, qui favorise l'affluence des intellectuels, des artistes, non pas seulement de la France et de la province, mais aussi de tous les pays du monde, qui donc détermine une concentration formidable à Paris, une concurrence formidable, une concurrence qui donc sélectionne les meilleurs et aussi qui détermine de la part des écrivains et des artistes une conscience exaspérée de leur importance sociale. Parce que si le souverain vous montre une telle attitude d'admiration, de respect, donc on a le sentiment de son importance sociale. Et donc, par exemple, on n'expliquerait pas l'affaire de Fils, je pense, qui est l'aboutissement de ce processus, si on était compte d'un côté du fait que cette société, dans la société qui est formée par les artistes et les intellectuels, s'est réunie dans un triangle très, très étroit de l'espace parisien, donc ils poussent, ils se connaissent, ils se fréquentent, et d'autre part, ils ont le sentiment d'être importants, d'avoir du poids. Et cette société leur reconnaît du poids. Ce n'est pas le même, par exemple, en Angleterre ou en Allemagne, ce n'est pas la même chose. En Amérique, on n'est pas parlé des États-Unis. Donc, c'est un fait exceptionnel. Et c'est un fait dont il faut tenir compte. Et donc, mais pour revenir à mon discours, donc à l'époque, en considérant les échanges et l'exportation à l'étranger des modes françaises, il y a vraiment un raz-de-marée, c'est-à-dire partout le naturalisme, le symbolisme après, et partout ces modes sont revendiqués, appropriés, transformés, et cela exerce un autre effet, c'est-à-dire le fait que on crée une sorte de répertoire transnational. C'est très important parce qu'il y a comme des frères ennemis, parce qu'ils sont concurrents aussi, dispersés dans tous les pays, mais qui se reconnaissent sur les mêmes enjeux, les mêmes techniques, les mêmes problématiques. Les questions sont les mêmes. Et c'est très important pour les échanges et aussi pour la constitution de quelque chose comme une histoire de l'art ou de la littérature transnationale.
Alors ça, l'époque dont vous parlez, c'est quand même plutôt 1860, 1880. C'est sur ce fond-là que s'inscrit, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que nous on peut penser comme une. C'est sur ce fond d'ouverture que s'inscrit la fermeture nationale. Et il faut peut-être revenir à la nature de ce nationalisme qui monte à partir des années 80. Alors peut-être pour vous montrer la virulence de l'affrontement, je vais vous lire un texte de Rémy de Gourmont, qui lui, vous allez le comprendre assez vite, n'est pas un nationaliste, mais qui, la virulence de son pamphlet donne la mesure de la virulence qui pouvait être en face. Alors, c'est un texte qui date de 1891, qui s'appelle « Le joujou patriote ». Dépurons-nous de ces humeurs. Prenons quelques pilules de dédain qui fassent issir par les voies naturelles ce virus nouveau dénommé patriotisme. Nouveau, oui, sous la forme épaisse qu'il assume depuis 20 ans. 20 ans, donc. Car son vrai nom est vanité. Nous sommes la civilisation, les Allemands sont la barbarie. Or, on ne peut, il est vrai, nous dénier une littérature et un art supérieur à la littérature et à l'art allemand. Mais cet art même et cette littérature, demeurées toutes sénaculaires, sont inconnues à nos derviches hurleurs. Quelle fierté les patriotes ont-ils jamais tiré des œuvres de, par exemple, Villiers de l'Isle-Adam ? Soupçonnaient-ils son existence alors que le roi de Bavière l'accueillait et l'aimait ? Ont-ils subventionné la Forgue, qui ne trouva qu'à Berlin la nourriture nécessaire à la fabrication de ses chefs-d'œuvre d'ironie tendre ? Et pour ne citer qu'un seul nom d'artiste, est-ce par les patriotes que sont achetées les lithographies de Redon, dont les admirateurs sont presque tous scandinaves et germains ? Il y a un patriotisme à la portée de tous ceux qui possèdent 3,50 francs, c'est d'acheter les livres des hommes de talent et de ne pas les laisser mourir de misère. Laissons donc l'art et la littérature, puisque les productions par lesquelles on nous clame supérieures sont au contraire de celles qui nous humilieront à jamais dans l'histoire de l'esprit humain. Et parlons du reste. L'érudition, mais elle est allemande. Les Allemands ont inauguré et détiennent encore la philologie romane. Et s'il faut chercher des professeurs connaissant mieux l'ancien français que les maîtres de l'école des Chartes, c'est en Allemagne. Qui nous a fait connaître notre littérature dramatique d'avant Corneille ? Des Allemands. Et les bonnes éditions de ces poètes sont allemandes. Qui a connu mieux que nul l'histoire de la Révolution française ? Des Allemands, les Sibelles et les Schmitt. Qui a débrouillé l'histoire grecque et l'histoire romaine, sinon les Mommsen et les Curtius ? Je ne dis rien de la philosophie, rien de la musique, domaine allemand, et je me borne à ces indications pour ne point répéter un ancien article de M. Barrès, dont le spirituel antipatriotisme jadis m'avait charmé. Le vrai, c'est que l'intellect germain et l'intellect français se complètent l'un par l'autre, sont créés, dirait-on, pour se pénétrer, se féconder mutuellement. Du cerveau de l'Europe, l'un des peuples est le lobe droit, l'autre est le lobe gauche, et rien en ce cerveau ne peut fonctionner normalement si l'entente n'est parfaite entre les deux inséparables hémisphères. Peuple frère, il n'y en a guère qui le soit plus clairement, ni mieux fait, pour une entière et profonde sympathie, malgré les différences évidentes dans les modalités de la pensée. Ils sont calmes et nous sommes salpêtres, ils sont patients et nous sommes nerveux, ils sont lents et un peu lourds, nous sommes vifs et allègres, ils sont muets et nous sommes braillards, ils sont pacifiques et nous avons l'air belliqueux. Dernier point où l'entente est extraordinairement facile, car il semble certain qu'ils en ont, de même que nous, assez, et de même que nous, ne souhaitent rien, si ce n'est qu'on les laisse travailler en paix. Non, nous n'avons nulle haine contre ce peuple, nous sommes trop bien élevés pour afficher une enfantine rancune, trop au-dessus de la sottise populaire pour même la ressentir. Quant à moi, entre les assourdissants jappeurs ligués contre notre quiétude et les placides Allemands, je n'hésite pas, je préfère les Allemands. S'il faut dire d'un mot nettement les choses, eh bien, nous ne sommes pas patriotes. Ça vous donne une idée de la violence de la polémique. Néanmoins, on retrouve tout à fait exprimé les caractéristiques de ce sentiment germanophobe dont parlait Christophe Charles tout à l'heure. Mais en même temps, ce qui est assez frappant, c'est que, je ne sais pas ce que vous allez en penser, les arguments qui sont donnés versent également dans une sorte d'essentialisme, nous sommes vifs et sont lourds, le cerveau droit, le cerveau gauche, on sait quel usage aujourd'hui on peut faire de ce thème-là. Donc ça dit, même dans son anti-patriotisme, il dit quelque chose aussi d'une manière de pensée racialiste, pour dire les choses. Qu'est-ce que vous...
Oui, enfin, je pense que c'est un texte qu'il faudrait commenter des heures, parce qu'il est très compliqué à travers des allusions que oui. expliciter, parce que chaque mot renvoie à un auteur qui a utilisé tel argument et lui prend l'argument inverse, etc. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est ce qu'on appelle à l'époque la psychologie des peuples. C'est quelque chose de très répandu. Ça a été créé notamment par Hippolyte Taine, qui avait voulu faire une psychologie du peuple anglais. Alors, c'est pareil. Beaucoup de stéréotypes anti-anglais ou anti-français selon le regard qu'on porte. Donc ça a beaucoup vieilli, ce type de regard, mais ça montre bien justement on est dans des jeux de rôle et que tout son éloge de l'Allemagne, c'est en même temps
Bon, ils ont des qualités, mais alors ils ont les défauts de leurs qualités. C'est-à-dire, ils sont profonds, mais ils sont ennuyeux. Nous, on est peut-être superficiels, mais on est plaisants. Enfin, donc, il y a aussi une façon de s'auto-glorifier inversement. Donc, c'est assez ambigu comme regard. Ce qui est important, c'est que c'est surtout une réponse à ce qui vient de se passer en France 2 ans plus tôt. Hein, il y a eu ce grand mouvement qu'on appelle le boulangisme, qui a été justement ce lancement un peu d'un mouvement politique s'appuyant sur le nationalisme pour éventuellement même pousser à la guerre, hein, puisqu'on a été à 2 doigts de la guerre à un certain moment avec l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'il y a des allusions à l'idée qui sont quand même pacifiques, puisque finalement, ils n'ont pas poussé la guerre. D'autre part, il y a une volonté de dénoncer cette espèce de pharisaïsme de la bourgeoisie française qui se plaint des auteurs français, mais qui en fait contribuent à ne pas les aider, hein, parce qu'on continue d'aimer les vieux auteurs, mais on ne suit pas l'avant-garde, et ça va être un reproche qui va être pris pour l'art, hein, avec le fait que les avant-gardes auront plus de succès à l'étranger qu'en France, et qu'on sait très bien que ce sont les acheteurs américains qui ont permis aux impressionnistes de survivre et d'être reconnus, etc. Donc il y a aussi une critique à l'intérieur même de la France entre la fraction, disons, de l'avant-garde que représente Gourmont face à une espèce de public moyen, un peu conformiste, qui aime un certain style français mais qui est incapable d'apprécier les nouveautés. Et donc il y a autant de critiques sur la France que de critiques sur l'Allemagne, et inversement. C'est ça l'ambiguïté un peu de ce texte.
Anna, pouvez-vous nous dire un mot sur Rémy Gourmont?
Oui, alors Rémy de Gourmont a été un personnage que moi j'adore, ses contemporains qui l'appréciaient trouvaient exceptionnel. Il y avait comme une sorte de mythe, par exemple Apollinaire à son arrivée à Paris tout jeune rêvait de rencontrer Rémy de Gourmont, et tous les jeunes poètes de son âge, c'est le même Sandral. Les plus grands poètes de la génération symboliste et post-symboliste les révéraient. C'est quelqu'un qui s'intéressait à tout, qui est un érudit formidable, un esprit aussi sarcastique ou ouvert comme on peut l'être selon les limites aussi les possibilités de son époque. Parce que ce texte en témoigne, n'est-ce pas? C'est un texte très ouvert, c'est un texte très audacieux. Finalement, il a été révoqué de son poste à la Bibliothèque nationale pour avoir publié cet article. Mais en même temps, donc, c'était l'époque des Gobineaux, des théories raciales, donc, des premières études physiologiques sur le cerveau. Et on avait une certaine idée des races, des ethnies, des différences essentialistes. Justement, chacun était rapporté à un type, et donc pour ça, il est de son époque. Mais c'est un personnage, par exemple, qui a vraiment beaucoup compté, d'une manière, parce qu'il était trop dédaigneux, comme vous le voyez d'après ce texte, pour chercher un succès. Ses œuvres, c'était des œuvres qui s'adressaient à un petit cercle restreint, mais qui ont eu un rayonnement beaucoup plus grand qu'on ne le croirait. Et je voulais dire, pour terminer, que lui aussi, donc, cette pression nationaliste était si forte que lui aussi, au moment de l'Union sacrée, au moment de la guerre, il a cédé et il a publié un dernier ouvrage, il est mort en 1915, dans l'orage, où il a cédé à des sentiments germanophobes, bellicistes, etc. Donc, c'est la force de l'histoire. Personne à ce moment-là ne pouvait vraiment résister à cette pression. Mais les gens étaient déchirés par ça. C'est des gens comme Gourmont et aussi Apollinaire, par exemple, qui était étranger d'origine. Et donc, comme Sandra, comme d'autres, Panudo, etc., et il était presque contraint de montrer sa loyauté vers sa patrie d'élection, la France. Et donc, il s'est engagé volontaire. Mais il a écrit des vers qu'on ne connaît pas et qui disent beaucoup sur le déchirement. Et ce sont des vers que je voudrais vous dire. Donc, les jalouses patries m'ont déchiré un jour. Moi, la pensée, moi, l'art, moi, l'amour. Ce sont des vers de 1916. Donc, ce n'est pas de cœur léger, ça a été une époque vraiment de drames immenses. Et aussi, ça peut voir les tensions. Aujourd'hui, on étudie beaucoup les tensions qui créent chez les gens les identités plurielles auxquelles ils sont confrontés. On est confronté à des identités locales, provinciales, régionales, nationales et métropolitaines et aussi étrangères, l'Europe, supranationale, mondiale. Et entre les différentes identités, on hésite, on se sent déchiré. Et cette époque ressent ces problèmes d'une manière très aiguë.
Alors, vous avez étudié ce que peut-être abusivement on pourrait appeler une stratégie identitaire assez particulière, qui est transnationale, c'est-à-dire ce que vous appelez ce qui s'appelait la Renaissance latine. C'est une manière de revendiquer tout de même une identité anti-septentrion, enfin anti-scandinave, germain, mais qui était transnationale, c'est-à-dire pas uniquement française. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment
c'est oui, il faut un moment donc dire quelques mots sur le fait que les réactions les plus fortes concernant l'étranger, les modes importés de l'étranger, concernaient l'importation du roman russe, par exemple, l'importation du théâtre d'Ibsen, du théâtre scandinave, Stridon, etc. L'importation, par exemple, les Polonais, les succès de Kovadis. Oui. Et pourquoi ça? Parce qu'ils ne réagissaient pas de la même manière par rapport à l'importation du roman anglais, par rapport à l'importation de l'Allemagne. Alors, il y a comme des catégories de perceptions des produits littéraires qui sont collectives et qui sont fondées, bien y regarder, sur les hiérarchies symbolique et géopolitique entre les pays. Donc on n'a pas, par exemple, Apollinaire, lui, il ne traitait pas de la même manière ses frères latins. Lui, il revendiquait l'identité latine parce qu'il était d'origine italienne, etc. Mais il avait une attitude de condescendance envers les Italiens, ses amis italiens, tandis qu'il respectait beaucoup ses homologues allemands. Il s'est empressé d'aller à Berlin, participer à l'activité de Der Sturm. C'était la revue qui a lancé l'expressionnisme en Allemagne et de publier dans Der Sturm, il a publié une poésie, un poème merveilleux, Le Fenêtre, dans les catalogues de l'exposition de Delaunay à Berlin. Et donc, les rapports entre les différents groupes passaient à travers des stéréotypes d'époque, mais aussi plus profondément à travers des rapports de force objectifs. Et c'est un peu sophistiqué parce que c'est aussi la position que chacun occupait dans l'échiquier. Parce que la position d'un étranger, comme l'était Apollinaire, est différente par rapport à la position d'un Français de souche, comme Agide ou d'autres. Donc, il faut toujours tenir compte de ça. Et chacun jouait du racisme, de la xénophobie, en fonction de sa position. Et pour revenir à la question de la Renaissance latine, c'est Eugène Melchior de Vauguier qui a lancé ce concept à propos de la publication dans la revue de Deux Mondes d'un roman d'Annunzio, un écrivain italien, Le Triomphe de la Mort. Et pourquoi cela? Parce que c'était une stratégie spontanée, ce n'était pas calculé, ce n'était pas cynique, c'était une manière de lancer un nouveau clivage qui s'opposait au mode importé du septentrion. Donc, les constellations pouvaient osciller. Et donc, et là, il y a la revendication d'un ensemble latin Et quels sont les effets? Les effets, ou bien, disons, les visées, c'est de souligner une sorte de continuité entre la civilisation française, et Paris, qui est la capitale de cette civilisation, et l'Antiquité classique. Et d'opposer cet ensemble, qui est quand même un peu plus universel qu'un ensemble simplement national, donc c'est supranational, donc un peu plus universel, moins particulier, de l'opposer à, par exemple, à l'Allemagne aussi. Et pendant la guerre, Apollinaire a employé ce concept de la latinité pour défendre le cubisme. Pourquoi? Le cubisme était attaqué, vous savez, on le considérait, c'est-à-dire ses ennemis, c'était toujours ses ennemis, donc les critiques d'art et les peintres qui s'opposaient au cubisme, qui ont profité de la guerre pour dénigrer le cubisme comme art boche, parce que les marchands de Picasso, Karl Weiler, était allemand. Et alors, Apollinaire écrivait que Picasso était espagnol, Braque était français, donc le cubisme était un mouvement qui s'inscrivait justement dans la Renaissance latine. Vous voyez comment on peut...
Alors, justement, la question n'est pas évidemment... On le comprend pas seulement littéraire, à quel moment tout ça s'articule avec la politique et la prise de position politique. Alors peut-être là, faut-il quand même parler de comment l'affaire Dreyfus arrive comme un aboutissement un peu de toute cette montée de ce thème nationaliste. Qu'est-ce qu'elle signifie par rapport à ce qu'on vient de dire, cette affaire Dreyfus?
Oui, alors ça peut paraître très loin, puisqu'il s'agit, comme tout le monde le sait, d'une affaire de trahison. On accuse un officier juif, et donc il y a un procès qui est fait, une condamnation, etc. Et on pourrait dire, bon, quel rapport avec la vie littéraire, quel rapport avec ces débats intellectuels, mais en fait... Ça va être utilisé parce que les défenseurs de Dreyfus vont évidemment remettre en question cette vérité officielle et le faire au nom de grands principes qu'ils considèrent comme éminemment français, c'est-à-dire les droits de l'homme, la vérité, la justice, enfin, ce qui a été l'héritage de la culture politique de la Révolution française, puisque ce qui est en jeu, c'est une vérité officielle que l'armée veut défendre mordicus, le gouvernement lui-même continue de défendre cette vérité, alors qu'il y a de plus en plus de preuves qui démontrent que ça dénie la vérité, ça bafoue les droits de l'homme d'un individu qui est Dreyfus, qui a été condamné non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il était juif, etc. Donc on voit qu'on passe à un autre type de débat, qui est un débat presque politico-philosophique, et ceux qui vont s'opposer à cette campagne de défense de Dreyfus vont utiliser à l'inverse les ressorts du nationalisme en disant, ce que disait même Barrès lui-même, à la limite je m'en fiche de savoir si Dreyfus est coupable ou innocent, ce qui m'importe c'est de savoir est-ce que l'intérêt de la France va en pâtir ou pas. Or, il est évident que si l'armée française est dénoncée ou en tout cas reniée par le gouvernement, qu'elle est obligée de reconnaître son erreur, ça affaiblit la France puisque c'est l'armée française qui va être déshonorée par rapport à son ancien ennemi, à l'Allemagne, et qui va être déshonorée globalement au niveau de l'Europe, puisqu'on va voir que des hommes puissants au sein de l'état-major ont préféré imposer une vérité. Et donc moi, en tant que patriote, en tant que nationaliste, ce que je veux, c'est que la France soit forte, c'est que son armée soit forte, et je suis prêt à sacrifier les intérêts d'un individu pour cela. Ça me paraît une cause plus importante que les intérêts des droits de l'homme. Donc on voit bien que c'est deux philosophies, hein, les droits de l'État, les droits de l'armée, les droits de la nation par rapport aux droits de l'individu. Et on voit bien aussi que ça renvoie aussi à un combat national, puisque il s'agit de se battre, pas seulement à l'intérieur des frontières françaises entre ceux qui sont Dreyfusards et anti-Dreyfusards, mais plus globalement, est-ce que ça défend les intérêts de la France en tant que puissance dans l'Europe ou pas? Alors les Dreyfusards diront, la France est conforme à sa mission, elle est conforme à son héritage, donc ça défend les intérêts de la France en tant que puissance intellectuelle qui a montré la voie à l'humanité. C'est la philosophie de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, hein, c'est le titre que choisit l'organisation des Dreyfusards, Ligue des droits de l'homme et du citoyen, ça se dit bien, on est à un niveau de principes généraux et on est dans l'héritage de la France éternelle des droits de l'homme, face à ceux qui vont se regrouper dans une autre ligue qui s'appelle la Ligue de la patrie française, où ce qui prédomine, c'est la patrie. Et les droits de l'homme, c'est secondaire. Ce qu'il faut, c'est la force de la France, parce que nous sommes dans une Europe où nous avons un ennemi principal, et même plusieurs ennemis, puisque il se trouve que l'affaire Dreyfus coïncide avec une autre confrontation, la confrontation entre l'Angleterre et la France autour d'enjeux coloniaux, avec l'affaire de Fashoda, où donc un officier français est obligé de céder devant l'armée anglaise et de renoncer à des conquêtes qu'il était en train de faire. Donc il y a un sentiment que la France est isolée, qu'il faut s'unir au-delà des clivages, et donc on voit très bien comment cette affaire, qui au départ est quelque chose de très particulier, de très limité, devient un affrontement entre des grands principes, deux visions de la France, une vision universaliste et une vision particulariste. Deux stratégies, est-ce que c'est l'héritage de la Révolution française qui doit être privilégié, ou est-ce que c'est au contraire les intérêts géopolitiques et l'unité nationale dans une Europe de plus en plus dangereuse, où les grandes puissances s'affrontent et où il y a des alliances, et si on est isolé, on va s'affaiblir. Donc on voit très bien comment, à partir de quelque chose qui peut paraître très minuscule finalement, on est arrivé à un grand clivage qui structure l'histoire de France elle-même, entre ceux qui se reconnaissent d'abord comme les héritiers de la Révolution de 89 et ceux qui mettent en avant la nation, l'unité nationale et la puissance face aux ennemis.
Alors est-ce on voit bien que le nationalisme peut être de droite ou de...
Ah ben, il y a une fraction des anti-Dreyfusards qui se recrutent aussi à gauche, puisqu'il y en a qui vont dire « je suis dans l'héritage de la défense de la nation, comme la Révolution française a aussi défendu la nation face à ses ennemis ». Donc il y a quelqu'un comme Rochefort, qui a été au départ d'extrême gauche, puisqu'il a participé à la Commune, va complètement changer de camp et va être un farouche anti-Dreyfusard, un farouche antisémite, et va se retrouver allié avec ses pires ennemis, puisqu'il va se retrouver avec des généraux qui, pour certains d'entre eux, avaient combattu la Commune. Donc c'est un peu le paradoxe de ces chassés-croisés autour de la notion nationale.
Mais est-ce qu'on peut dire que, du coup, malgré tout, après l'affaire Dreyfus, de ce point de vue-là, la question nationale a pris toute la place, définitivement. Enfin, définitivement, bah, jusqu'à...
De toute façon, elle a toujours été là. La France s'est toujours interrogée sur son identité. C'est quelque chose de récurrent. Est-ce que la France est d'abord la fille aînée de l'Église, ou est-ce qu'elle est la fille aînée de la Révolution française? Est-ce qu'elle est l'héritière de Napoléon, ou est-ce qu'elle est l'héritière du pacifisme et des droits de l'homme? On peut toujours lire plusieurs histoires dans l'histoire de France, puisqu'il y a eu des alternances entre ces différentes formes. Alors ça, c'est évidemment, l'affaire Dreyfus va être un point d'orgue, mais ça va être relancé, bien entendu, par la guerre de 14, où là, comme l'a dit tout à l'heure Anna Boschetti, il y a même des gens qui étaient plutôt hostiles à ce nationalisme fermé, qui vont finir par se rallier à l'Union sacrée, parce que devant le danger commun, on fait tous front. Après, il y aura tout le débat dans l'entre-deux-guerres face au fascisme. Est-ce que la France a intérêt à être à la tête d'un mouvement antifasciste, ou est-ce qu'au contraire elle doit essayer de préserver avant tout la paix, parce qu'une nouvelle guerre serait une catastrophe, nouveau clivage? Et puis après, il y aura tout le débat lié à la défaite de 1940. Quelle est la cause de cette défaite? Est-ce que c'est justement parce qu'il y a eu ce clivage entre deux visions de la France, ou est-ce que c'est parce que la France n'a pas su justement à temps prendre les mesures pour réagir face au fascisme? Et donc ça sera un peu la leçon de la résistance, et ainsi de suite. Et on peut après rebondir avec les guerres coloniales. Donc on a à chaque fois deux visions de la France qui s'affrontent et qui sont redéfinies à travers des conjonctures. Mais enfin, on peut suivre des lignes de clivage, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est toujours du même côté. Enfin, on voit très bien des grandes constantes de longue durée.
Alors pour illustrer ce que vous venez de décrire comment la question nationale est présente à propos de l'affaire Dreyfus, c'est l'affrontement de ces deux Frances. Je peux vous lire le débat qui a eu lieu sur le transfert des cendres de Zola au Panthéon à la Chambre des députés le 19 mars 1908. Et ce débat oppose Maurice Barrès et Jaurès. Barrès, Jaurès, c'est peut-être ces deux Frances dont vous évoquiez. Voilà ce que dit Barrès Je voudrais qu'il fût en mon pouvoir de mettre sous les yeux de la Chambre, à l'aide d'un projecteur, la couverture de l'édition allemande de La Débâcle, le roman de Zola. Elle a été vendue à un chiffre extraordinairement considérable par fascicule. L'ouvrage paraissait en 25 fascicules et chacun d'eux porte une image qui représente un soldat allemand terrassant un porte-drapeau français, le roulant dans la boue et s'apprêtant à le percer de sa baïonnette. Mouvement dans l'assemblée. Il est toujours possible, dans une assemblée où les dialecticiens les plus vigoureux abondent, de soutenir toutes les thèses et de répondre, mais il est impossible que vous ne sentiez pas, comme une chose douloureuse, qu'un écrivain puissant et ayant une grande action ait pu se permettre une telle présentation, une telle réclame. Réponse de Jaurès. Voilà le sens de l'opposition que vous faites au projet. Voilà aussi le sens du vote que la Chambre émettra tout à l'heure. Il signifiera, encore une fois, que Zola n'a pas séparé, qu'il a réuni l'art et la vie dans la passion de la vérité. Il signifiera que, s'il est bon, comme le demande M. Maurice Barrès, pour les grands peuples, de ne pas oublier leur passé profond, d'honorer leur terre et leur mort, il ne faut pas arbitrairement mutiler la tradition de la patrie et que le clair génie encyclopédique et révolutionnaire est une partie de cette tradition. Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche. Il signifiera que l'art, quelque haute que soit sa fonction propre, quelque distincte que soit sa forme propre, trouve un renouvellement au contact de la réalité et de la vie. La gloire de Zola, son honneur, c'est de n'avoir pas conçu l'art à la façon de M. Barrès, comme une sorte d'étang mélancolique et trouble, mais comme un grand fleuve qui emporte avec lui tous les mélanges de la vie, toutes les audaces de la réalité. Applaudissements. C'est là ce que le peuple, avec son instinct, a reconnu dans l'œuvre de Zola, dans le chercheur de vérité, dans le compagnon de bataille. Et voilà pourquoi nous vous demandons, messieurs, non seulement d'écarter les restrictions et les réserves, mais d'accord avec le gouvernement, de donner à la solennité qui doit fêter cette grande mémoire toute la force et toute l'ampleur populaire qui conviennent au génie français. C'est une belle illustration de ce que vous venez d'expliquer, Christophe Charles.
Ah, oui, forcément, puisque c'était déjà les deux acteurs principaux, enfin deux des grands, les grandes voix qui se sont affrontées au cours des débats de l'affaire Dreyfus, donc qui rejouent 10 ans plus tard, puisque c'est 98 et 1908, 10 ans après, ils rejouent un peu la même pièce et ils s'affrontent autour du même personnage, puisque ce qui a lancé, on le sait, le débat de l'affaire Dreyfus, c'est le célèbre article de Zola qui s'appelle J'accuse. On appelle J'accuse, mais qui s'intitule réellement Lettre ouverte au président de la République, dans lequel Zola donc dénonce les injustices et les irrégularités juridiques qui ont procédé à la condamnation de Dreyfus. Donc là, il s'agit encore d'un palier supplémentaire, puisque à travers cette panthéonisation, on est sous le gouvernement de Clémenceau, donc lui aussi un Dreyfusard de la première heure, on est sous un gouvernement qui a réhabilité Dreyfus en 1906, mais qui veut aller plus loin en montrant que cette cause n'était pas simplement une affaire de parti ou une affaire d'une coterie, mais incarnait une certaine idée de la France. Et évidemment, Zola étant mort prématurément, ça, c'était une des figures possibles de l'incarnation de cette cause. Donc la panthéonisation, c'était une façon de faire entrer le dreyfusisme et la vision du dreyfusiste dans une sorte de monument national créé depuis l'enterrement de Victor Hugo, pour créer ainsi une sorte de tradition de cette France. Et évidemment, ça ulcère Barrès, à la fois parce qu'il n'aime pas Zola sur le plan littéraire, hein, ils se sont affrontés sur le plan même de leur façon d'écrire, leur vision du monde, mais parce que pour lui, Zola a été un facteur de trouble, quelqu'un qui a justement mis la France à feu et à sang à travers l'affaire Dreyfus, et qui en plus, par ses œuvres, donne des arguments aux adversaires de la France. Hein, cette citation des couvertures allemandes des œuvres traduites de Zola, c'est quand même très significatif. Quand on lit vraiment La Débâcle, c'est pas forcément un livre qui accable la France. Il montre les responsabilités des uns et des autres. Enfin, c'est pas aussi violent que ces images dont parle Barrès, qui sont évidemment une récupération par l'ennemi de l'affaire de la guerre de 70 pour dénoncer, enfin pour affaiblir la France. Donc, et ce qu'il reproche à Zola, c'est d'avoir donné des arguments à l'adversaire, exactement comme quand il critiquait l'armée française et qu'il critiquait l'état-major, il aidait l'armée allemande indirectement en affaiblissant l'armée française. Donc on voit bien qu'on rejoue d'une certaine façon la même pièce, même si on emploie des arguments un peu plus nobles et un peu plus grandiloquents.
Merci. Alors, il nous reste quelques minutes pour éventuellement répondre à vos questions, si vous en avez.
En attendant, alors, peut-être que vous ayez quelques nouvelles propositions. Alors, il y a un point qu'on a oublié d'aborder dans notre parcours, c'est qu'on a surtout parlé de littérature, mais en réalité, on retrouve aussi ce débat dans les autres arts. Il y a tout un débat, par exemple, autour de l'introduction de Wagner dans les théâtres, à l'opéra notamment, ou dans des salles de concert. Il y a tout un débat autour, évidemment, de l'arrivée d'art venu de pays lointains, en particulier le Japon, ou l'arrivée des avant-gardes russes, par exemple avec les ballets russes, les avant-gardes aussi italiennes avec le futurisme. Donc on voit bien que c'est une période où ces débats, qui sont évidemment très liés à l'idéologie, à la littérature, sont aussi présents dans les domaines esthétiques. C'est ça qui justifiait d'ailleurs dans notre livre que l'esthétique soit présente, parce que l'esthétique est aussi un terrain de lutte, et pas seulement un terrain de lutte sur des principes d'esthétique, mais sur des valeurs qui sont portées par ces esthétiques. Ce qu'on reproche aux avant-gardes françaises en particulier, c'est de remettre en cause toute la tradition classique, tout l'héritage d'une certaine façon d'écrire. C'est quand même à cette époque qu'on va mettre en place le vers libre, c'est-à-dire la rupture avec la prosodie telle qu'elle a été établie depuis très longtemps dans la tradition littéraire. La musique de Wagner remet en question l'opéra italien, mais aussi l'opéra français. Donc il y a toute une série de domaines comme ça où les visions traditionnelles, les valeurs héritées, les répertoires connus sont chahutés par ces importations étrangères, et ça suscite évidemment des débats à la fois esthétiques, mais aussi avec des arrière-pensées nationales et internationales.
Oui, vous citez Debussy, comment il était tout à fait concerné dans ce débat.
Oui, parce Wagner, il est à la fois au début très admirateur, il est allé à Bayreuth, il a consommé du Wagner à haute dose au début de sa vie, et puis après il a compris que s'il continuait d'être dans cette orientation, il ferait des répétitions et qu'il serait un épigone de Wagner. Donc, comme il veut affirmer sa propre originalité, il annonce fièrement qu'il ne faut plus être d'après Wagner, mais après Wagner. Il faut essayer de faire un pas supplémentaire pour se libérer, enfin, en s'inspirant de ce qu'il a fait, mais pour trouver de nouveau. Et c'est évidemment le projet qui s'incarne dans Péléas et Mélisande. Et puis, après, dans les années 1900-1910, il va essayer de dire qu'il faut que nous nous ressourcions. Alors ça, c'est assez original aussi de cette époque, l'idée qu'il faut revisiter des périodes anciennes pour retrouver une inspiration et se libérer des modes du jour. Et lui, il se rallie par exemple à Rameau. Ça peut paraître assez étonnant par rapport à la musique wagnérienne ou par rapport à la musique même de Debussy, mais il revendique le XVIIIe siècle parce qu'il dit qu'il y avait des potentialités du XVIIIe siècle musical qui ont été oubliées à cause de l'importation massive de la musique allemande. Donc vous voyez, on retrouve toujours cette intrication de l'esthétique et du national ou de la revendication nationale. Et puis évidemment, au moment de la guerre de 14, il va écrire un article dont le titre à lui tout seul et tout un programme, Enfin seul, c'est-à-dire enfin nous allons être libérés des Allemands puisqu'ils nous ont montré ce qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire des barbares. Donc il n'y a plus besoin de s'occuper d'eux, on ne va pas s'inspirer d'une musique qui a été faite par des gens qui détruisent la cathédrale de Reims et qui massacrent des populations civiles. Donc il y a vraiment, là on retrouve le national de façon très virulente.
Ouais. Je voulais seulement ajouter une chose, c'est-à-dire que personne, en tout cas, même le plus nationaliste, le plus protectionniste, n'était insensible à la part de l'étranger. Donc, les littératures nationales, les arts nationaux se définissent par rapport aux autres littératures, aux autres arts. Et ne serait-ce que la confrontation, ça implique des changements, des transformations, des appropriations. Donc, tout le monde, et le cas de Debussy en est un exemple. Donc, il n'y a personne, mais même Maurras, Barrès, si vous suivez donc l'œuvre, et notre ouvrage permet de voir cela. Tout le monde était à la fois étranger dans ses références Et peut-être un nationaliste, donc, par exemple Bourget, qui était l'un des chefs de file du nationalisme, il était en même temps cosmopolite dans sa vie, il était l'ami d'Henry James, donc, et anglophile au possible. Et donc, notre ouvrage permet, je crois, de ne pas s'enfermer dans ces clichés, de faire voir comment. Et ça arrive aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Personne n'a une essence insensible à l'extérieur. Et donc, et ces livres-là permettent de voir ces aspects que normalement, parce que normalement, si vous regardez dans les ouvrages spécialisés, ou bien on traite du nationalisme, on fait l'histoire du nationalisme, ou bien l'histoire des écrivains, des avant-gardes cosmopolites, et on ne voit pas que ce sont des histoires qui vont ensemble. Et rien que de séparer ces histoires, c'est de déformer.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que tout de même, cette articulation extrêmement forte là, que vous nous avez décrite entre l'art, la littérature, la culture et la part politique, la prise de débat politique, débat public, est-elle aussi forte qu'aujourd'hui, alors à propos de, par exemple, de ce débat sur l'identité nationale, il ne semble pas que cette question est mise en cause d'une quelconque manière, même l'omniprésence de la culture américaine, je ne dis n'importe quoi, mais en France, par exemple, n'a pas du tout été le cœur de la question. Est-ce que ça, c'est qu'une grosse différence dans la question des positions entre le politique et le littéraire aujourd'hui?
Oui, alors évidemment, on pourrait dire que le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec cette époque où tout se passe essentiellement en Europe, entre 3 ou 4 pays, et puis on est toujours un peu dans des jeux de rôle ou des stéréotypes. Les États-Unis à l'époque existent et commencent à s'intéresser à ce qui se fait en Europe et commencent à y avoir un intérêt pour les États-Unis, mais enfin ça reste quand même très loin par rapport à ces débats. Aujourd'hui, évidemment, le débat dominant, c'est effectivement en quoi cette culture anglo-américaine est portée par cette hégémonie de l'anglais à l'échelle internationale, empêche-t-elle l'expansion ou l'exportation d'autres cultures, en particulier les cultures de pays plus petits, comme la France, de pays dont les langues ne sont pas aussi répandues, et du coup, ça devient un affrontement un peu entre un grand méchant et puis des petits plus petits. C'est pas du tout des puissances de même niveau. Et puis, il y a derrière, évidemment, des enjeux économiques, puisqu'on a des grandes industries culturelles qui contribuent à l'exportation massive du spectacle hollywoodien ou de musique populaire qui sont extrêmement diffusées. Il me semble que, par exemple, le débat autour du prix Nobel de Bob Dylan peut être relu à travers cela. Alors, il y a évidemment le débat, est-ce que c'est un vrai poète ou pas? Mais il y a aussi le débat, s'il n'avait pas été américain, est-ce qu'il aurait eu le prix Nobel? Parce que, évidemment, il a bénéficié, malgré tout, de la puissance des industries culturelles américaines qui ont permis qu'il soit universellement connu et reconnu, ce qui n'est pas le cas, évidemment, d'un chanteur swahili ou d'un chanteur Rouerga ou d'un chanteur du Vietnam. Bon, c'est clair que même s'il a les mêmes qualités objectives, mais il y a cette puissance des grands médias qui sont derrière. Donc on voit bien qu'on est dans un autre monde à cause de ces conditions préalables. Mais en même temps, les arguments sont un peu toujours les mêmes. Quand on a parlé d'exception culturelle pour la France, de francophonie, c'est la volonté de maintenir un espèce de précaré ou une volonté de se préserver face à ce rouleau compresseur, cette puissance 10 fois plus forte, et donc il faut organiser une espèce de, pas de réserve, mais enfin d'espace privilégié pour maintenir une vie culturelle qui ne soit pas uniquement dominée par ces grands groupes ou par cette langue dominante. Donc les conditions sont différentes, donc les débats sont différents, mais on retrouve quand même des jeux entre ceux qui disent mais non, c'est normal, il faut s'ouvrir, et puis ceux qui disent non, il faut quand même se préserver parce qu'on va être mangé par les plus gros. Donc on retrouve un peu les débats du 19e siècle.
Mais en même temps, je crois que du moins pour certains domaines, par exemple pour la philosophie, pour la littérature, il y a une influence importante, un poids important de la France dans le public élitaire, disons, par exemple, le public, la culture universitaire américaine reste en tout cas fasciné. Les presses universitaires américaines publient beaucoup plus d'essais français, d'œuvres françaises qu'ils ne le font. Et cela a une importance parce que à travers les États-Unis jouent un rôle de médiation comme autrefois, mais comme maintenant encore le joue la France. Donc, c'est-à-dire le fait d'être consacré en Amérique fait que même des petits pays absorbent, introduisent les modes françaises. Ce sont des modes de disons, des cultures élitaires. C'est donc une culture.
Oui, il s'agit plus des ouvrages universitaires que.
Oui, mais quand même.
Il y a très peu de romans français qui sont traduits aux États-Unis.
Qui, à travers une circulation mondiale, garde beaucoup de force, beaucoup de prestige. Et donc. Je m'arrête.
Est-ce que vous avez d'autres choses à... Non, mais écoutez, je crois que dans ce silence parfait, nous pouvons vous laisser. Je vous donne rendez-vous le jeudi 2 février. Et nous parlerons du temps des combats avec l'unité brisée des savoirs sur l'homme avec Laurent Jean-Pierre et Pierre Saint-Garavellou. Là, il sera question des sciences humaines, de l'aventure des sciences humaines et sociales. Je vous remercie, Anna Boschetti, Christophe Charles.